Ce podcast contient des histoires pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes. La supervision des parents est suggérée.
Je vous préviens tout de suite, quand je vais raconter, ça risque de vous faire tout drôle.
Bonjour, bonsoir et bienvenue dans la Crip Zone. Un mardi sur deux, Agathe.
Bonsoir.
Et moi, Claire, vous racontons deux histoires de faits divers français sur un ton conversationnel, dans l'effroi et la bonne humeur. On espère que vous êtes prêts et prêtes. C'est parti. Salut Agathe, ça va?
Ça va et toi?
Ça va super.
Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé de la dernière fois qu'on s'est vu?
On
n'est pas confinés.
On n'est pas confinés. Castex,
pas encore, après...
il dit rien.
Ouais, jamais. On enregistre un peu avant la date de sortie, bien sûr. Donc peut-être que dans le turfu, on est confiné, on sait pas.
Peut-être. En fait, le truc, c'est que comme on nous prévient toujours au dernier moment, on va pas être les premières sur l'info, là. On n'est pas, au cœur de l'info. À l'heure actuelle,
on
n'est pas
confiné. Prétendu être au cœur de l'info.
À moi, c'est un petit peu ma passion, c'est d'avoir l'info avant tout le monde. D'être au cœur de l'info.
Mais bon, t'as préparé ton sac.
Non, pas du tout, pas encore. Mais j'ai préparé la logistique, mais j'ai rien préparé encore. Et mon appart est toujours en bordel. Mais demain, je bosse pas et demain, je me prépare.
Mais notre bon président, il est censé parler quand?
Bah, il était censé parler hier, hein, mais il a annulé parce que il.
Mais moi, j'ai entendu ce soir. Putain, mais c'est un mirage ce président.
Non, mais même Castex qui a parlé au dernier moment, c'était pas prévu, hein, donc...
Ouais, c'est vrai.
Franchement, je sais pas. Donc, peut-être... Il parle ce soir ? Bah, tu vois, tu me l'apprends. Je suis vraiment pas au cœur de l'info. Hein. La meuf. À peu près RTL, quoi.
Non, mais j'en sais rien, en fait. Je lance des rumeurs.
Ah, putain ! Abusé. Ok.
Voilà. Donc, pas de confinement.
Non.
Mais ça pue du cul quand même.
Oui, mais après moi, bon, je sais que je vais en énerver plus d'un, mais je souhaite un confinement.
Oui, moi aussi.
Ah bon.
Si on les énerve ensemble.
Ouais, je sais que...
Il y a quoi, les rageux?
Moi, j'ai l'impression que c'est la... Mais un vrai confinement, parce que, voilà, là où ça pêche, c'est que moi, je veux un confinement de mars. Et je connais beaucoup de personnes qui souhaitent un confinement comme en novembre. Moi, j'ai trouvé que c'était une vaste blague.
C'était pas vraiment un confinement.
C'était pas un confinement. Tout le monde sortait pour aller bosser.
Mm-mm. Ouais. Mais on va voir, hein. On va voir ce que l'avenir nous réserve.
Putain, ouais. Ça me déprime. Ne parlons pas de ça. Quoi de neuf, sinon ?
Quoi de neuf ? Eh bien, écoute, moi, il y a deux jours, j'ai essayé de faire le WAP Challenge. 6 mois après tout le monde.
Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cette chose ?
Mais tu sais, c'est la chanson WAP de Cardi B et Megan Thee Stallion.
Non, je vois pas.
Non. Ah, merde.
Est-ce que c'est la chanson où dans le clip il y a Kylie Jenner qui passe et on se demande pourquoi elle est là?
Ouais, qui sert à rien. Exactement.
Ouais, c'est ça. Okay.
Et en fait, sur TikTok, chez les jeunes, il y a eu un WAP challenge où en fait c'est une danse où en gros tu fais des acrobaties, tu twerk et tu fais un grand écart et tu twerk en même temps.
What?
Donc, clairement quelque chose. Ouais, non mais attends, il y a clairement quelque chose que je n'arrive pas à faire de, enfin normalement. Que au moment où c'était la mode de le faire, c'est-à-dire l'été dernier, j'étais en béquille, donc je pouvais pas le faire. Donc là, je me suis dit, c'est quoi ? Tente-le. C'était
non, mais
un
attends,
désastre
attends.
Total.
Tu as un compte TikTok sur lequel
non.
Tu publies des choses ? Ah, tu l'as
ah,
fait
mais j'ai
pour
pas publié
bon
cette chose. Je l'ai fait pour mon placer, pour mon placer personnel.
Ok.
Et c'était nul. Mais je me suis bien marrée quand même.
D'accord.
Je me suis filmée, je vais t'envoyer la vidéo. C'est génial.
Ah oui, je t'en supplie, je vois pas pourquoi tu attends de le faire. T'aurais dû le faire tout de suite.
C'est juste,
franchement,
genre, à la moitié
jure,
de la...
Vous êtes décevant à pas transmettre ce
genre
de truc.
À la moitié de la
truc.
Corée, j'abandonne. Je rigole juste. Voilà.
Ok.
Donc tu verras ça. Mais cet été, j'aimerais bien y arriver, pour de vrai.
Ok, ouais. Donc c'est ton challenge 2021.
C'est ma résolution, c'est ma raison.
C'est ta raison de vivre.
Twerker en faisant le grand écart.
Mais c'est possible de faire ça? J'étais même
mais
pas.
Il y a des gens qui arrivent. Moi, je pensais que c'était pas possible, mais. Et c'est vraiment les limitations de mon corps à moi, finalement.
Oui, bien sûr. Ok. Très bien.
Voilà. Ok. Toi, sinon
ben, moi, je, rien de cet ordre. Moi, je bosse.
Ouais.
Voilà. J'ai pas beaucoup préparé mon histoire parce qu'hier j'étais trop occupée à faire un tirage de tarot et ensuite une longue partie de jeu de rôle. Du coup, c'est mes deux seuls loisirs. Ouais. Je salue Floriane qui nous écoute, qui a fait mon tirage de tarot.
Salut
Floriane. Écoute, mon année 2021 s'annonce très positive.
Ah, trop bien!
Et sinon, voilà, j'ai fait une grande partie de jeu de rôle dans l'univers Cthulhu et c'était trop cool. Voilà, c'est
trop bien.
Ouais.
C'est une chance.
Bah.
Est-ce qu'on commence du coup?
Ouais. Allez. Grave. Attends, qui
c'est à
commence?
Toi de commencer.
Ah bon? Ah oh, putain.
La semaine dernière, c'est moi qui ai commencé. Tu veux que je commence?
Non, je vais commencer comme ça, ce sera fait. On s'en débarrasse. Mais parce que je suis pas prête. Mon histoire, elle est super intéressante. C'est une histoire avec plein de détails importants, mais je l'ai pas assez bossé et j'ai peur.
Non, ça va être génial.
Ok. Je vais parler de la tuerie de Chevaline.
Ok.
Est-ce que ça te dit quelque chose? Ok.
Non.
Ben, je suis sûre que t'en as entendu parler, mais en fait, t'oublies à chaque fois.
Je suis pas au cœur de l'info.
Le mercredi 5 septembre 2012, William Brett Martin, un Anglais de 53 ans, se promène sur un chemin... de la Combe-d'Ire, dans la commune de Chevaline, en Haute-Savoie. C'est près du lac d'Annecy.
Okay.
Il est propriétaire d'une maison de vacances dans la région et il fait une randonnée à VTT comme il le fait souvent. Vers 15h15, en chemin, qu'est-ce qu'il y a? Tu connais cette histoire?
Ça me rappelle un truc, du coup.
Ah ouais? Vers 15h15, il se fait doubler par un autre cycliste, il croise ensuite un 4x4 de couleur sombre et ensuite une moto.
Mmh.
Et à 15h48, il arrive sur le parking du Martinet au bout de la route forestière où il avait prévu de faire une pause. Et il aperçoit le cycliste qu'il avait doublé auparavant, qui est allongé par terre.
Okay.
Et ensuite, il aperçoit une petite fille titubée sur le chemin et tombée en arrière. Donc il s'approche et découvre ensuite un break BMW Bordeaux immatriculé en Angleterre qui est enfoncé dans un talus, les roues arrière sont en train de tourner dans le vide et le moteur hurle.
Ok.
Donc William Brett Martin, il se dit que c'est un accident de la route, donc ouais. Il s'approche. Sauf qu'en s'approchant, il découvre plusieurs impacts de balles sur le côté du conducteur de la voiture. Et il sent une forte odeur de brûlé. Donc, il a le réflexe de briser la vitre, de plonger sa main et de couper le courant automatiquement pour éviter un départ d'incendie.
Bon, incroyable. J'aurais jamais pensé.
Bah, maintenant, tu sais que c'est ça qu'il faut faire quand il y a une voiture hein, qui a une odeur de brûlé, faut couper le courant.
Mm.
Il va vers le cycliste qui est mort.
Ouais.
Il le déplace de quelques mètres pour éviter qu'il se fasse écraser si une nouvelle voiture arrive. Ouais. Ensuite, il va voir la petite fille qui est grièvement blessée et qu'il place en position latérale de sécurité. Il regarde dans la voiture, il y a 3 passagers, un homme et 2 femmes. Ils sont tous morts et il voit qu'ils ont tous au moins un impact de balle au crâne.
Ouais.
Donc il va immédiatement chercher des secours, il n'y a pas de réseau à cet endroit de la forêt, donc il monte sur son vélo et il repart chercher des secours.
L'angoisse de ce trajet-là,
ça doit angoisse, être, ouais. C'est terrible. Enfin, même la découverte, ça doit être horrible.
Ah oui, bien sûr, ouais.
L'enquête, elle va déterminer peu de temps après, grâce à la plaque d'immatriculation, qu'il s'agit de la famille Al-Hili, résidant en Grande-Bretagne. Vers 18h, de nombreux gendarmes, médecins légistes, experts balistiques investissent la scène et un hélicoptère survole les environs de la scène de crime pour trouver des suspects ou des indices. Vers 23h, un homme se présente spontanément à la gendarmerie. Il explique qu'il a entendu aux infos qu'il y avait une tuerie, qu'une famille avait été visée, et que une famille anglaise, et que la famille anglaise qui loge à côté de lui au camping n'est pas rentré dans la soirée.
Ouais.
Et qu'après avoir entendu les infos, il se demande si ce ne sont pas eux les victimes de la tuerie, surtout que la voiture correspond à la description.
Okay.
Donc il est immédiatement pris au sérieux.
Ouais.
Et donc il fait la description de la famille, il dit que c'est une famille anglaise constituée de 3 adultes, un homme, sa femme, une autre femme plus âgée et 2 petites filles. Et donc là, la police, elle est très surprise parce qu'ils n'ont trouvé qu'une seule petite fille. Donc où est la deuxième ?
Ah. Ah.
Sur la scène de crime, les scientifiques, ils ont d'abord regardé le périmètre. Ils ont regardé dans la forêt, ils ont regardé autour les balles, les douilles de balles qu'ils ont retrouvées, ils ont regardé le cycliste. Et c'est seulement vers minuit qu'ils vont ouvrir la voiture pour examiner les corps. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont découvrir une petite fille de 4 ans, recroquevillée, cachée sous les jambes d'une femme, d'une des victimes. Elle est saine et sauve. Mais ça fait 8 heures qu'elle est cachée là et qu'elle n'ose pas attirer l'attention des gendarmes parce qu'elle est pétrifiée.
Ouais.
C'est terrible.
Horrible, la pauvre.
Ça, c'est le détail qui m'a le plus bouleversée quand j'avais entendu parler de cette histoire. C'est terrible. Donc, qui sont les victimes ? Il s'agit des membres d'une même famille, donc la famille Al-Hili, une famille anglaise d'origine irakienne. Le père, Saad, 53 ans, c'est un designer en ingénierie. Iqbal, sa femme, 47 ans, c'est une dentiste suédoise d'origine irakienne. Et Souhaïla Al-Halaf, je ne sais pas le prononcer, je suis désolée si je le prononce mal, qui a 74 ans, c'est la mère d'Iqbal et qui est venue de Suède pour les vacances.
Okay.
Chaque victime a reçu 2 balles dans la tête. Saad Al-Hili a été touché 5 fois. Le cycliste, lui, il s'appelle Sylvain Mollier, c'est un habitant de la région, il a 45 ans, et il a reçu 7 balles, et il est décédé sur le coup.
Putain, c'est abusé.
Les 2 fillettes de la famille sont rescapées du massacre, Zainab, l'aînée de 7 ans, et Zina, sa sœur de 4 ans. Zina, elle est choquée, mais elle est indemne. Sa sœur Zainab, au contraire, elle présente une fracture du crâne, et elle a également été touchée par balle à une épaule. Donc elle est envoyée directement à l'hôpital, elle est opérée plusieurs fois, puis elle est renvoyée en Angleterre dans un lieu tenu secret où elle continue de recevoir des soins, elle est plongée dans un coma artificiel et on s'occupe d'elle.
Okay.
Donc pour les gendarmes, il y a 2 groupes de victimes. D'un côté, il y a le cycliste français et de l'autre, il y a la famille anglaise. Pour eux, il n'y a pas de lien entre les 2 groupes de victimes. Et donc la question qui se pose, c'est qui du vélo ou de la voiture était visé. Est-ce que il y a d'un côté des victimes, enfin des personnes qui étaient visées par un ou plusieurs tueurs et une victime collatérale du drame.
Ouais. Ok.
Donc pour l'instant, c'est impossible de savoir. Tout ce que les gendarmes savent, c'est qu'il s'agit d'une fusillade d'une extrême violence. Sur la scène du crime, ils retrouvent 21 douilles de pistolet. 17 ont atteint les victimes. Donc presque toutes les balles ont touché quelqu'un.
Ouais.
Et toutes les victimes, à l'exception des 2 petites filles, ont été exécutées d'au moins une balle dans la tête, comme je disais.
Putain, c'est incroyable.
La police se penche d'abord sur l'hypothèse d'un différend familial dans la famille Al-Hili. En effet, Saad était en conflit avec son frère Zaïd pour une histoire de succession concernant l'héritage de leur père, qui était un homme d'affaires irakien très riche et dont la fortune s'élève à plusieurs millions d'euros.
Okay.
Des enquêteurs se rendent donc au domicile de la famille Al-Hili, dans la banlieue sud de Londres, et ils sont accompagnés par la police anglaise, et ils perquisitionnent la maison pour trouver d'éventuels indices et pour questionner le voisinage. De son côté, Zaïd Al-Hili, il se présente spontanément à la police et il clame son innocence. Il a un solide alibi, il ignorait même que son frère et sa famille étaient en vacances en Haute-Savoie.
Okay.
Interrogé sur leur conflit, il explique qu'ils sont effectivement fâchés, mais ils en sont jamais venus aux mains. Et au bout de 48 heures d'interrogatoire, il est relâché. En plus de ce différend familial sur fond d'héritage, les tabloïds britanniques vont formuler plusieurs hypothèses au cours de l'enquête concernant le drame. Ils vont évoquer un crime crapuleux, un vol de voiture qui aurait mal tourné, Ils vont aussi parler d'une affaire de trafic d'armes ou de drogue. Et ils vont même parler d'une histoire d'argent détourné à l'ancien dictateur irakien Saddam Hussein. Toutes les théories les plus folles sont permises. Des théories qui sont démontées par les enquêteurs à chaque fois. Le 14 septembre 2012, toujours, Zainab, l'aînée des deux fillettes, sort du coma. Elle est interrogée, mais elle ne livre pas beaucoup d'informations. Elle est très jeune et elle est extrêmement traumatisée. Par contre, elle va quand même livrer une information majeure. Elle évoque un seul et unique « méchant », entre guillemets. Donc la police sait qu'il n'y a qu'un seul tyran. Et elle l'a forcément vu, puisqu'elle était à l'extérieur de la voiture et que le coup qu'elle a au crâne vient sans doute d'un coup de crosse de pistolet.
Donc elle l'a vu.
Voilà. Donc un tireur, qui aurait utilisé une arme très particulière. D'après les analyses balistiques, l'arme utilisée serait un Luger Parabellum. C'est un pistolet de collection fabriqué dans les années 30 et 40 pour l'armée suisse.
Ok.
Le chargeur de cette arme a la particularité qu'il ne peut contenir que 7 balles. Compte tenu qu'on a retrouvé 21 douilles sur la scène de crime, ça signifie que le tueur, il a rechargé son arme au moins 2 fois pendant la fusillade. Ce que je trouve que c'est un détail glaçant. Parce que du coup, il était vraiment déterminé. Enfin, c'est effrayant. Bref. De plus, c'est une arme ancienne. Donc c'est une arme fragile qui s'enraye facilement. Ce qui interroge beaucoup les enquêteurs, parce que pourquoi avoir utilisé cette arme-là ?
Ouais.
Il s'agit plus d'une arme de collectionneur que de tueur à gages, donc ça pose quand même beaucoup de questions. Un autre point qui interroge les enquêteurs, Zina, la plus petite des sœurs, elle explique aux enquêteurs qu'au début de la journée, leurs parents avaient prévenu de les emmener dans un parc d'attractions, mais qu'ils avaient changé d'avis au dernier moment pour une balade en forêt. Ce qui signifie que si le tueur en voulait à la famille Al-Hili, il n'a pas pu préméditer son acte sur le parking du Martinet. Soit il a suivi la famille depuis le départ du camping, soit il ne les visait pas et c'est un hasard, ils se sont retrouvés au même endroit par hasard. À cela s'ajoutent les témoignages de William Brett Martin, le retraité qui a découvert le massacre, et celui également d'un agent de l'Office national des forêts, qui témoignent tous les deux avoir vu un 4x4 de couleur sombre et un motard en direction du parking sur le même chemin. Quelques minutes avant la découverte des victimes. Donc, est-ce qu'ils sont coupables ? Est-ce qu'ils sont témoins de la scène ? Là, les enquêteurs, leur but, c'est de les retrouver pour pouvoir les interroger. Mais ils ont pas de piste. Et le temps passe. Et plus le temps passe, plus le mystère s'épaissit. Et on parvient toujours pas à savoir qui était réellement visé, Sylvain Mollier ou la famille Al-Hili. Est-ce qu'il y avait un mobile ou est-ce qu'il s'agit d'un tireur fou ? Qu'a tiré au hasard sur des passants. Et peu à peu, la frénésie médiatique retombe et donc l'enquête elle continue d'être menée, mais elle n'est plus dans l'opinion, enfin, à la une, ouais. Et le 24 juin 2013, l'affaire revient dans l'actualité. 9 mois après le massacre, la piste du différend familial revient. Zaïd Al-Hili, il est à nouveau arrêté et à nouveau entendu par les enquêteurs, qui cherchent à savoir s'il n'aurait pas commandité le meurtre de son frère pour récupérer l'héritage de leur père, qui s'élève à plusieurs millions d'euros. Zaïd, lui, il continue de nier. Zaïd, c'est un comptable dans un club de golf de la banlieue de Londres, c'est un homme discret, voire timide, et il n'a pas vraiment le profil à engager des tueurs à gages et encore moins à mener une mission internationale pour tuer son frère. La police manque d'éléments et ne peut pas garder à vue Zaïd Al-Hili et au bout de 36 heures d'interrogatoire, il le relâche à nouveau.
Okay.
Malgré tout, la situation entre les deux frères était très très tendue. Et les enquêteurs savent également que Saad avait changé les serrures de son domicile, il avait même installé un système de vidéosurveillance et qu'il avait acheté un pistolet. Et pour le lieutenant-colonel Willman, Saad, il vivait clairement dans la peur de son frère. Alors ça, voilà, bon, ça se trouve, il avait peur d'autre chose. Hein.
Oui, dans la peur de quelqu'un, en tout cas.
Quelque chose le préoccupait. Mais pour ce lieutenant-colonel, c'était son frère.
D'accord.
En parallèle, on s'interroge aussi sur le cycliste, Sylvain Mollier. C'était un chaudronnier dans une usine qui fabrique des combustibles nucléaires.
D'accord.
Les tabloïds anglais évoquent une affaire d'espionnage industriel. Une théorie qui est à nouveau balayée par les enquêteurs français. Sylvain Mollier, c'était un simple chaudronnier.
Ouais.
Il avait donc pas accès à des informations très importantes qui pourraient être utiles dans une histoire d'espionnage industriel. Et puis, il était en congé paternité depuis plusieurs mois. Ouais, c'est terrible. Et donc, il n'était pas à l'usine depuis un moment. Donc, vraisemblablement, Sylvain Mollier, il était malheureusement au mauvais endroit, au mauvais moment, et c'est une victime collatérale dans une histoire qui ne le concernait pas du tout.
Ok. Ouais, mais enfin, quand même, il s'est pris combien ? 7 balles ?
Ouais, mais parce que peut-être il a vu quelque chose, hein. C'est juste, le tueur voulait pas de témoins, hein.
Ouais, bien sûr.
Au mois de septembre 2013, les enquêteurs français et britanniques annoncent qu'ils travaillent sur une nouvelle piste d'espionnage industriel. Et cette fois, ça concerne pas Sylvain Mollier, mais Saad Halili.
Ok.
Il était effectivement ingénieur dans le domaine de l'aérospatial et il travaillait dans une entreprise spécialisée dans les satellites civils. Et lors de la perquisition à son domicile, les gendarmes ont trouvé plusieurs téraoctets de données sur des développements confidentiels, des infos qu'il n'était pas censé avoir en sa possession.
Ah.
Et donc la question c'est, est-ce que Saad Halili s'est retrouvé piégé dans une histoire de vente de données ?
Ouais.
Interrogé par la presse, ses proches et ses collègues réfutent complètement cette hypothèse. Pour eux, je cite, « Saad Halili était un homme beaucoup trop simple pour être pris dans ce genre d'histoire. » Donc cette piste n'aboutit pas.
Ok.
Elle n'est pas abandonnée, mais elle aboutit à rien, quoi. Ensuite, en février 2014, les gendarmes annoncent qu'ils ont arrêté un suspect. Un homme de 48 ans, dont le visage ressemble trait pour trait à celui du portrait robot du motard aperçu par William Brett Martin et l'agent de l'Office national des forêts.
Ouais.
Il s'agit d'un ancien policier municipal. J'avais mis son nom et en fait, je décide de ne pas le mettre. Je ne vais pas le donner. Donc, un ancien policier municipal. C'est bête parce que vous pouvez trouver l'info, mais moi, je ne veux pas la donner. Okay. À son domicile, les enquêteurs retrouvent une collection d'armes de la Seconde Guerre mondiale, du même type que celle utilisée lors du drame.
Ah, ouais.
Mais lui, il prétend qu'il est un simple collectionneur. Et il est remis en liberté quelques jours plus tard parce que son ADN ne correspond pas du tout à ceux qui sont trouvés sur la scène du crime. Malheureusement, l'information a fuité dans les médias. Son nom a été donné et il a perdu son travail, sa femme est tombée en dépression. Enfin,
d'accord.
Il y a eu des conséquences assez graves, c'est pour ça que je peux le donner.
Oui.
Voilà. Manifestement, ce serait pas lui. Bon.
D'accord.
Finalement, le motard est vraiment retrouvé en 2015 grâce à un bornage de 4000 téléphones portables analysés. Voilà, il s'agit d'un homme, j'ai même pas noté ni son nom ni son âge, mais les juges d'instruction Michel Molin et Christine de Curez d'Annecy, qui sont chargés de l'enquête, estiment qu'il n'est pas du tout impliqué. Je cite, c'est un chef d'entreprise de Rhône-Alpes, honorablement connu et au-dessus de tout soupçon, qui était venu faire du parapente et qui rentrait chez lui. Selon les sources citées par France Info, son profil personnel et professionnel l'exclut de la liste des suspects à 95%.
Mais d'où ?
Donc, manifestement, il avait un alibi. Ah, okay. Y a rien qui le lie à aucune des victimes sur le site. Il n'est pas en possession d'armes. Manifestement, vraiment, il était là, lui aussi, au mauvais endroit, au mauvais moment, quoi.
Oui, je pensais que c'était parce que juste il était homme, enfin, patron d'entreprise.
Un chef d'entreprise.
Du coup.
Non, c'est pas ça. Okay. C'est juste que bon, j'ai pas les détails de l'instruction. Je ne fais pas partie de ces gens privilégiés, mais manifestement, Bon, la piste du motard s'évanouit.
Ok.
Il va exister aussi un autre point qui sera repris par les tabloïds et qui interroge beaucoup les enquêteurs. Pendant l'été 2014, 2 ans après la tuerie, les gendarmes français chargés de l'enquête apprennent qu'Iqbal a déjà été marié en 99 à un ancien policier américain, Dudley Thompson, dont elle avait divorcé à peine quelques mois plus tard.
Scandaleux.
D'après certains journaux, Iqbal avait caché ce mariage à son deuxième époux et à sa propre famille. Et ce qui intrigue beaucoup les gendarmes, c'est que Dudley Thompson, il est aussi mort le 5 septembre 2012 à quelques heures du drame.
Quoi ?
Aux États-Unis. Il serait mort subitement en pleine rue d'une crise cardiaque. Un juge d'instruction d'Annecy demande que le corps soit exhumé avec l'accord du FBI, mais la famille de Thompson s'y oppose. Et malgré cette coïncidence très très troublante, il semblerait qu'il n'y ait aucun lien entre la mort de Dudley et celle de la tuerie de Chevaline. C'est un pur hasard.
Non.
Fin incroyable. De cette piste. Incroyable, hein ?
Mais c'est fou !
Tout entre la découverte de la petite fille, ce policier qui est collectionneur d'armes, cet Américain qui meurt au même moment, qui est lié à la femme. Il y a plein de points qui, en fait, sont des impasses, mais qui sont incroyables. Enfin,
putain.
Ouais. Nouveau rebondissement en 2015, les tabloïds anglais, encore eux, prétendent que les gendarmes seraient sur une nouvelle piste. Un ancien légionnaire qui connaissait le cycliste Sylvain Mollier et qui avait été entendu au début de l'enquête se serait suicidé. Et dans la lettre laissée à ses proches, il évoque l'affaire de Chevaline et il affirme qu'elle l'a beaucoup perturbé. La presse relance l'hypothèse d'un éventuel coupable qui serait rongé par le remords et qui aurait mis fin à ses jours.
Ouais.
Pour le procureur d'Annecy, il s'agit encore d'une fausse piste. Pour lui, la presse britannique brouille les pistes et mélange tout. Et depuis le début d'ailleurs, elle a perturbé l'enquête et elle l'a peut-être même complexifiée.
Merde.
Et plus tard, en 2017, dans le cadre d'une enquête différente, des gendarmes ont interpellé, le 4 mai 2017 plus précisément, dans les environs de Chevaline, un homme de nationalité sud-africaine impliqué dans un trafic d'armes anciennes. Cependant, la nouvelle procureure d'Annecy a précisé que, hormis la proximité géographique, rien ne permettait de lier les deux affaires à nouveau.
Non, mais stop.
Et que son interpellation entrerait dans le cadre d'une enquête d'ampleur nationale menée par les douanes françaises.
Ah, mais elle est ouf, cette histoire.
Mais oui, quoi, mais je te l'avais dit.
C'est un chamois qui les a tués. Un chamois collectionneur d'armes.
Eh bien, tu me le fais pas dire. Voilà ma conclusion. 9 ans après les faits, le drame de Chevaline n'a toujours pas été élucidé et peut-être qu'il ne sera jamais élucidé. Les petites filles qui ont grandi vivent toujours en Angleterre sous une nouvelle identité. Elles avaient été interrogées une nouvelle fois en 2019 dans l'espoir que des souvenirs soient revenus et qu'elles auraient réussi à verbaliser maintenant qu'elles sont plus grandes, mais cela n'a rien donné. Les gendarmes de la section de recherche de Chambéry enquêtent toujours sur l'affaire dans un bureau de veille. Le dossier d'instruction représente 70 tomes. Les deux pistes qui restent le plus envisagées sont celles du différend familial, même s'il manque de preuves, et aussi la piste d'un tueur fou qui n'avait en fait aucun mobile et qui est donc le pire cauchemar des enquêteurs de police, puisque en fait il n'y a aucun mobile et donc c'est complètement gratuit, entre guillemets.
Oh, incroyable.
Voilà, donc c'était la tuerie de Chevaline qui est toujours un mystère. Je sais que il me manque sans doute beaucoup d'informations. Il y a des choses que j'ai sans doute pas dit et que j'ai pas assez approfondi. Donc là, je m'adresse à nos auditeurs. Si jamais il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je ferai plus de recherche, quoi. Enfin, je travaillerai plus sur l'histoire. Voilà. J'ai manqué de temps, mais c'est une histoire qui est incroyable et où il y a tellement de coïncidences et de trucs troublants qu'on sait plus où donner de la
tête.
Non,
mais l'ex-mari mort le même jour aux États-Unis.
Moi, ce que je trouve le plus fou, c'est cet ancien policier avec une collection d'armes de la Deuxième Guerre mondiale. Soit dit en passant, un policier avec des armes de la Seconde Guerre mondiale. On sait de quel côté politique il pourrait être. Enfin, on sait, on suppose.
Oui, oui.
Mais enfin bref, voilà, c'est une histoire incroyable.
Beaucoup plus probable que mon chamois tueur, mais...
Oui, beaucoup, beaucoup plus. Voilà, c'était la tuerie de Chevaline. Et j'espère qu'un jour, on aura élucidé ce mystère. Et j'espère que les deux petites filles vont bien. Ouais. Et voilà.
Et c'est pas possible que, par exemple... ce soit, je sais pas moi, genre le cycliste, il va pas se tirer cette... Enfin, je me disais genre, tu vois, il aurait peut-être...
Non, d'ailleurs, ce que j'ai pas dit, mais... En fait, alors moi, j'ai trouvé mes sources principalement dans sur Wikipédia, un article du Figaro et un épisode d'Affaires Sensibles. Je me souvenais, mais de manière assez floue, d'un épisode de My Favorite Murder où Karen en parlait. Sur le Wikipédia, ils disent aussi que le cycliste aurait eu un... avait de forts traumatismes au torse, comme si on l'avait écrasé.
Ok.
Donc, mais j'ai trouvé cette info que sur le wiki, du coup je l'ai pas dit, mais donc je pense pas que c'était le cycliste. Je pense vraiment que le cycliste c'est une victime collatérale et que ça concerne la famille Al-Hilli, mais ça aussi on saura c'est jamais. Hein. Enfin, voilà.
Merci.
C'était mon histoire.
Alors effectivement, je la connaissais.
Mais oui, tu la connaissais.
Enfin, je la connaissais. Je me souviens de ce qui s'était passé, mais je savais pas du tout comment ça avait fini, et ça n'a pas fini.
C'est,
voilà.
C'est sans doute pour ça que tu ne savais pas.
Eh ben peut-être.
Voilà. Mais peut-être qu'un jour on saura. J'espère. Moi, je m'accroche à ça. Tu vois, plusieurs années après, on retrouve le motard grâce à un bornage téléphonique, ce que je trouve fou. Ça se trouve, on peut... je sais pas. J'espère.
J'espère.
Et voilà, et j'espère que que c'était suffisamment clair.
Ah oui, c'était très clair.
C'est une histoire tellement complexe que voilà.
Ben merci. C'était grave cool. J'essaie de trouver une façon de faire une transition.
C'est ce que j'allais te demander. Peux-tu faire une transition ? Je sais que ton histoire se passe à un siècle complètement différent.
Ouais. J'ai pas vraiment de transition. Il y a des enfants aussi dans la mienne.
Voilà. Ok. D'accord.
Je vais te raconter. L'histoire de l'affaire Pierre Rivière. Est-ce que tu connais ?
Non, pas du tout.
Ok, bon. Donc, moi ça se passe en 1835.
Ok.
Dans le Calvados. Donc, même pas au même endroit. Nous sommes le 3 juin 1835, vers midi, dans le Calvados, en Normandie, donc. À Aunay. Un petit village, voilà. Sur la place du village, le maire discute avec des villageois quand un homme débarque en courant. L'homme est affolé et il lui indique qu'il s'est passé un drame dans la famille Rivière, une famille de fermiers vivant dans un hameau à environ 2 km. Le maire, ni une ni deux, va chercher le juge de paix Baudouin et ensemble ils se dirigent vers la ferme des Rivières. Donc les Rivières, comme je l'ai dit, sont fermiers. On a d'abord Pierre, le père, qui est un paysan, plutôt apprécié du reste du village. Un brave homme, voilà, bon, un mec sympa, quoi.
Sans histoire.
Sans histoire. Il y a sa femme, Marianne, qui, elle, est pas trop appréciée des gens du village. Voilà, elle est assez antipathique, un petit peu désagréable.
Ok.
Ensemble, ils ont 5 enfants. Pierre, junior, du coup, 20 ans. Victoire, 18 ans. Prosper, 14 ans, Aimé, 8 ans, et Jules, 7 ans.
Ok.
Prosper et Pierre, ils sont un peu limités. Et bon, je sais pas trop en fait quel terme employer, je m'excuse. En fait, j'ai tiré mes informations d'un On de la raconte, et lui, il dit neuneu, voilà, enfin...
Ouais.
Des termes qui sont assez péjoratifs.
Ouais. Ils ont des... Des capacités intellectuelles plus... Enfin, comment on pourrait dire ? Oui, ils sont limités intellectuellement.
Ouais, voilà. Voilà. Bon, en tout cas, Pierre en particulier est considéré comme étant l'idiot du village.
Ah ouais, ok.
Ouais. Donc, lorsque le maire et le juge de paix arrivent à la ferme, il y a déjà des villageois assez curieux, un peu des commères, quoi, qui sont déjà là, dans la cour de la ferme, pour voir ce qui s'est passé. La veuve Colville, qui est une vieille femme du village, elle sort de la maison en criant « c'est horrible » quand le maire arrive. Et le juge, pardon. Donc le maire et le juge entrent dans la maison, et là ils ont un peu les genoux qui claquent. Ils savent qu'il s'est passé quelque chose d'horrible. Et dans la salle à manger, ils se retrouvent devant une scène macabre. Donc trigger warning,
okay.
Je vais expliquer un peu ce qui se passe. Marianne Rivière, donc la mère, est allongée sur le dos, devant la cheminée, baignant dans son sang. Elle a une main sur sa poitrine. Elle a été presque complètement décapitée et son visage est méconnaissable. À côté d'elle se trouve Victoire, elle aussi allongée sur le dos, les bras croisés, le corps complètement mutilé. Et le plus jeune de la fratrie, Jules, est allongé sur le ventre, lui aussi sévèrement mutilé.
Oh là là!
À la suite de cette découverte, le maire et le juge interrogent les voisins. Il y a d'abord la voisine d'en face qui raconte qu'elle a vu Pierre se battre avec sa sœur, une serpe à la main, et alors qu'elle lui crie d'arrêter, celui-ci donne un grand coup de serpe sur la tête de sa sœur qui s'écroule morte. Une autre voisine dit l'avoir vu se diriger vers le village après les faits, avec sa serpe ensanglantée à la main. Il lui aurait dit qu'il avait délivré son père de tous ses malheurs et qu'il ne craignait pas la mort qui l'attendait. À partir de là, donc, 2 jours s'écoulent avant que le procureur du roi de Vire n'arrive à Aunay. Une fois sur place, il va recueillir les témoignages de nombreux villageois qui ont tous quelque chose à dire de Pierre.
Ouais.
Ils disent tous qu'ils l'ont vu par le passé embêter des enfants, les menacer de mort, torturer des animaux, parler seul, se faire les questions, les réponses. Voilà. Il y a plusieurs personnes aussi qui vont indiquer qu'il n'aimait pas vraiment les femmes, qu'il les fuyait en fait. Quand il avait des femmes qu'il approchait, il se cachait et ensuite il partait en courant, en rigolant un peu comme un fou, quoi. Donc voilà ce que les villageois disent de Pierre. Le procureur, il interroge également le père, donc aussi Pierre Rivière.
Oui, oui. Lui, il explique... J'étais confuse au début, je...
Ouais, pardon, il s'appelle pareil.
Non, mais c'est pas toi, c'est... C'est... Ouais.
C'est la coutume.
Ouais, bah oui, oui, oui. Donc là, c'est le père. Et le père, il lui est rien arrivé à lui ?
Non.
Ok.
Donc, le père, il explique que son fils poussait souvent des cris de chouette, mais qu'il n'était pas idiot, comme les gens disaient.
D'accord.
Il dit non, il n'était pas limité. Il explique qu'il passait la majeure partie de son temps à lire, parfois même la nuit, et que son rêve, c'était de partir vivre seul dans les bois, se nourrir de racines, d'herbes, etc. Enfin, bon, voilà, il avait ce truc de... En gros, d'être en dehors de la société qui ne lui correspondait pas du tout.
Ouais, il rêvait d'être un ermite, quoi.
Un peu, ouais.
Ok.
Donc, le procureur dresse le portrait d'un jeune homme solitaire et sauvage, en dehors de la société. Il lance un mandat d'arrêt et va voir les maires des villages alentours pour s'assurer que Pierre ne s'échappe pas.
Ouais.
Donc, il va diffuser une description de Pierre. Il a 20 ans, il fait 1m62, il a les cheveux noirs, une petite moustache noire, un front étroit, une bouche moyenne, un menton rond et un visage ovale. Il a la tête tout le temps inclinée pour ne pas croiser les regards, et il a le regard oblique. Donc, je sais pas trop ce que ça veut dire, de travers.
Il est louche, ouais.
Je sais pas si... Je crois pas qu'il louche, je pense que c'est genre, il doit avoir un...
Il regarde sur le côté.
Ouais, peut-être.
Ouais, ok. Il a un strabisme ou un truc comme ça, peut-être.
Ouais, c'est possible.
Ok.
Donc, lors de sa fuite, il portait une blouse bleue et des bottines. Voilà. Alors, il y a la mise en place de la traque qui va être un peu longue, parce qu'à l'époque, les informations, elles circulent pas comme ça, tu vois.
Ouais.
L'information fait difficilement le tour du Calvados, et entre-temps, on va l'apercevoir plusieurs fois. Il a l'air de se promener, genre, vraiment normalement, quoi. Mais le temps de prévenir les gendarmes, à chaque fois, il disparaît. Et donc ça va durer un mois, en fait. Il y a plein de gens qui le croisent, mais jamais il se fait attraper. Au début du mois de juillet, à une dizaine de kilomètres de chez lui, un gendarme l'aperçoit. Il lui demande ses papiers, il en a pas. Il lui demande ce qu'il fait par là, et Pierre lui répond que Dieu le conduit. Donc il lui demande comment il s'appelle, quand même. Et il lui dit, je m'appelle Pierre Rivière. Donc là, le gendarme est là, vous êtes en état d'arrestation. Et Pierre ne résiste pas. Il a sur lui 2 couteaux et un arc bricolé avec des branches, quoi.
Ok.
Il a amené à la prison de Falaise. Et le 9 juillet, il est présenté au juge d'instruction Exupère-Legrain. Celui-ci l'interroge sur les raisons du triple assassinat et Pierre explique que c'est Dieu qui l'a commandé. Il explique que Marianne, Victoire et Jules s'étaient unis pour persécuter son père et que Dieu lui est apparu, lui demandant de les tuer. Donc là, le juge, il en conclut que c'est un aliéné. En prison, Pierre va également se confier à son geôlier, au moment, en fait, de... Enfin, le soir, quoi.
Ouais.
Et là, il dit pas du tout la même chose. Donc le geôlier, il va voir le juge, il lui dit attention, moi il m'a pas du tout dit le même truc. Donc bon voilà. Bref, le juge réinterroge Pierre le lendemain. Et là, c'est un tout autre personnage qui se présente au juge. Donc Pierre relève la tête et donc le regarde dans les yeux. Il parle un français parfait, loin du parler paysan du Calvados.
Ok.
Voilà, et il paraît plus si idiot que ça maintenant en fait devant le juge. Il explique qu'il ne peut plus jouer le rôle de l'idiot, qu'il en a marre, et qu'il a bien agi pour aider son père, qu'il était persécuté par Marianne, en fait, le père. Il explique que pour Victoire, en fait, elle avait pris le parti de sa mère, donc du coup, il l'a tuée. Et pour Jules, il était seulement coupable d'aimer sa mère, en fait.
Oh,
quelle horreur. Sachant que Jules avait 7 ans.
Ouais.
Donc, Le juge comprend alors qu'il s'agit là d'un assassinat prémédité et délibéré, pas d'une crise d'aliéné.
Ouais.
Pierre raconte que sa mère n'a jamais voulu vivre avec son père, qu'elle l'insultait tout le temps, elle l'aspergeait de purin, qu'elle se roulait par terre en criant quand elle était contrariée, voilà, qu'elle dépensait tout son argent. Et il explique que cela faisait un mois qu'il avait prévu son crime.
Ok.
Il avait été fait aiguiser sa serpe, son arme, et qu'il avait décidé qu'il allait les tuer avec lui en ayant ses habits du dimanche. En gros, un peu une espèce de cérémonie. Mm. Quoi. Enfin, cérémonie.
Oui, si, voilà. qu'il en faisait un truc solennel, quoi.
Voilà, pour marquer le coup.
Ouais, quoi. Ouais.
Donc, il explique qu'il a frappé sa mère avec sa serpe alors qu'elle était de dos et qu'elle cuisinait, et qu'à chaque coup, en fait, sa rage montait d'un cran. Qu'ensuite, il s'est attaqué à Victoire, qui était pétrifiée d'horreur en voyant ça.
Ouais.
Puis Jules, qui s'était réfugié derrière la table. Les autres enfants et le père, ils étaient pas là. Ils étaient dans les champs, voilà. Il dit qu'il voulait ensuite se constituer prisonnier, mais qu'il s'était dégonflé quand il a réalisé son crime, qu'il a voulu se suicider, mais qu'il avait peur du jugement de Dieu, qui est offert aux personnes qui se suicident. Selon lui.
Non, et selon la Bible.
Enfin, selon la religion, oui, voilà. Mais ouais, voilà. Donc, il explique qu'il ne se cachait pas pendant le mois, en fait, son mois d'errance.
Ok.
Et même qu'il voulait plutôt se faire arrêter, en fait. Il n'avait pas le cran de se rendre, mais
ouais, il attendait. Ok.
Voilà. Donc, il promet au juge qu'il va écrire ses aveux le soir même, mais le juge, il en doute un peu parce qu'en fait, le mec est jamais allé à l'école, donc il a, tu sais pas écrire, en fait. Donc voilà. Mais il le fait. Et il va écrire toute la nuit. Et pendant 5 jours, en fait. Pendant 5 jours, il va écrire les détails de pourquoi il a fait ce crime. Donc, en attendant, la question est de savoir si il a toute sa tête ou pas au moment des faits. Et c'est une question importante parce que à cette époque, tuer ses parents, donc le parricide, c'est un aller simple pour la guillotine, en fait. C'est un des crimes les plus punis. Parce qu'il représente, en fait, un peu le dérèglement de la société, si tu veux.
Mais il y en a beaucoup, des parricides. Ça reste extrêmement rare, non?
Je pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais en tout cas, bon, voilà, à cette époque, c'est vraiment no way, quoi.
Mais c'est-à-dire
que... Pour aujourd'hui, hein, mais...
Oui, oui, mais c'est-à-dire qu'il y a presque pas de jugement, en fait. C'est... Si t'es coupable de ça, on va même pas tergiverser direction la guillotine.
Ok. Voilà, c'est ça. Et alors, petite parenthèse, à l'époque, les condamnations pour parricide, elles sont accompagnées de tout un cérémoniel particulier où, en fait, les auteurs de parricide sont amenés à l'échafaud avec un voile noir sur la tête.
Ok.
Et je sais pas pourquoi.
Ce qui n'est pas le cas des autres.
J'ai trouvé, mais j'ai pas trouvé. Non.
Ok.
Là, il y a un voile noir sur la tête et je crois que jusqu'en 1832, donc quelques années avant ça, ils coupaient aussi la main. Du condamné.
Ok.
Donc ils allaient le tuer après, mais d'abord ils lui coupaient la main.
Ah ouais. Ok. Voilà.
Donc j'ai pas trouvé pourquoi, mais en tout cas c'est spécialement pour les parricides ce genre
de pratique.
Le voile noir.
Sur ouais. Visage, ok. Quoi.
Donc la question de l'aliénation est assez importante parce que depuis 1810, il y a une loi qui indique qu'il n'existe ni crime ni délit si la personne est en état de démence au moment de l'action. Donc en gros, si Pierre est aliéné, il ne sera pas jugé et il sera envoyé à l'asile.
Oui, parce qu'il serait irresponsable de ses actes, comme voilà, c'est le cas aussi aujourd'hui. Non ?
Voilà.
Ouais.
Et donc ça a sa base en 1810, en fait.
D'accord. Ok.
Donc le juge va interroger les habitants d'Aunay pour en avoir le cœur net. Alors bon, par exemple, il va parler au curé qui lui va dire que non, il pense pas qu'il soit fou.
Ouais.
Mais tous les autres villageois, ils vont dire oui, il est complètement zinzin, quoi. Enfin, voilà, c'est un
ah
peu
ouais.
l'idée qui en ressort.
Ok.
Donc lorsque Pierre rend ses confessions par écrit, le juge est complètement sur le cul, en fait, parce que Pierre, il écrit extrêmement bien.
Mm.
Donc je vais te lire un extrait de ce qu'il écrit, on dirait un peu un plan de dissertation. C'est,
ah ouais.
C'est assez intéressant. Voilà, donc il commence ses confessions en disant « Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère, voulant faire connaître quels sont les motifs qui m'ont porté à cette action, j'ai écrit toute la vie que ma mère et mon père ont menée ensemble pendant leur mariage. Après cela, je dirai comment je suis résolue à commettre ce crime, ce que je pensais alors, et quelle était mon intention. Je dirai aussi quelle était la vie que je menais parmi le monde. Je dirai ce qu'il se passa dans mon esprit après avoir fait cette action. »
Ah ouais.
C'est fou, non? Genre, c'est genre vraiment un plan, quoi.
Ouais.
Et donc, en fait, le juge, il en revient pas parce qu'il y a ce paysan du Calvados que tout le monde dit c'est vraiment l'idiot du village et il est en train de lui faire une disserte sur pourquoi j'ai tué ma mère, ma sœur et mon frère.
Mm.
Pierre Rivière, il a une mémoire exceptionnelle. Il détaille absolument tout. Mais toutes les années avant aussi, genre pas que le crime, mais toutes les années, l'abus de sa mère envers son père, mmh. etc. Il explique aussi ses propres comportements jugés bizarres par les villageois, notamment sa peur des femmes. Il dit qu'il a peur, je cite, « de laisser échapper un fluide invisible qui mettrait les femmes enceintes ».
Ah. Bon.
Voilà, donc les cours d'éducation sexuelle, c'était pas ouf à l'époque, hein, visiblement, mais...
Non, enfin, peut-être que c'est des psychoses, tu vois, enfin...
Ouais.
Il y a forcément quelque chose avec la mère, manifestement, enfin...
Ouais, je pense, il y a quelque chose là... Mais bon, voilà, lui, il explique comme ça. Lui, il va raconter qu'il veut ressembler aux héros des épopées qu'il aime tant lire,
mm-hmm.
ceux qui se sacrifient pour leur patrie, et en fait, il dit que lui, il s'est sacrifié pour son père... Et que, en fait, il a tué son petit frère pour que son père le haïsse et qu'il ne soit pas triste qu'il soit condamné à mort.
Oh, quelle horreur. Ok.
Ouais. Donc, le juge se rend compte que, bon, manifestement, voilà, il n'est pas si idiot que ça, encore une fois.
Non.
Il demande au docteur Bouchard, qui est un éminent médecin, de l'examiner, mais c'est pas du tout un aliéniste, comme on les appelle à l'époque, donc c'est pas du tout un psychiatre, quoi. Donc, il le trouve un peu triste, mais en excellente santé mentale. Et il conclut qu'il n'a aucun signe d'aliénation mentale.
Tu galères sur ce nom.
Donc être jugé. Ah, je galère de ouf. C'est terrible. Donc, il peut être jugé, selon le docteur Bouchard.
Ok.
Donc, on désigne un avocat pour Pierre. C'est le maître Berthaud. Et celui-ci va essayer de prouver qu'il est fou. Et il va demander une contre-expertise d'un réel aliéniste qui conclut différemment du docteur Bouchard.
Ok.
Cet aliéniste-là, donc il pense qu'effectivement, il est fou. Et il considère qu'il a hérité cela de sa mère.
Ok.
Et donc, cela va se jouer, en fait, s'il est fou ou pas, au procès devant les assises. Le procès commence le 11 novembre 1835, donc quelques mois après les faits. On présente à Pierre l'arme du crime. Il gémit et il dit qu'il a hâte de mourir. Il ne veut pas la regarder. Les deux docteurs témoignent à la barre. Le docteur Bouchard dit qu'il n'est pas en état de démence, qu'il n'est pas idiot, vu ce qu'il a écrit, tu vois, un texte plein de sens, en fait, donc voilà.
Ouais, très articulé.
Ouais, voilà. Les jurés délibèrent pendant 3 heures, ce qui est long à l'époque. Ils demandent à lire le texte de Pierre Rivière, et ils ne retiennent pas la folie, et il est condamné à mort.
Ok.
Et là, les journaux vont s'emparer du débat, et en fait, ils vont presque unanimement demander... pitié pour lui. Ils retiennent le fait qu'il est aliéné.
Ah, ok.
Ils vont demander sa grâce. En gros, ils sont là, genre, il faut qu'il soit enfermé parce qu'il est dangereux, mais il faut pas qu'il soit tué. Parce que du coup, il a pris condamnation à mort. L'avocat de Pierre Rivière, il n'abandonne pas et il va réunir des pontes de la médecine le 25 décembre, dont le médecin du roi en personne.
Ok.
Ensemble, ils vont passer une journée et se pencher sur le cas de Rivière et ils vont conclure que depuis son enfance, il n'a cessé de présenter des signes d'aliénation mentale et que donc ses actes sont uniquement dus à ses délires. Ainsi, le 10 février 1836, Louis-Philippe accorde la grâce à Pierre Rivière.
Ok.
Il prend, en fait, plutôt la perpétuité.
Ce qui doit être donc très rare dans un cas de parricide.
Mm-hmm. Ouais. Voilà, exactement. Et surtout, un cas de parricide quand même très très violent.
Oui, oui, bah oui. Ouais, c'est voilà, clair. Mais...
Et donc, Pierre Rivière prend la perpétuité, mais il va se pendre dans sa cellule quelques années plus tard.
Ok.
Cette affaire, elle va faire grand bruit à l'époque, mais en fait, elle va ressortir dans les années 70, parce que Michel Foucault va écrire un livre sur ça, intitulé « Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère ». Okay. Et en fait, c'est un recueil d'articles compilés à la suite d'un séminaire qu'il a fait en 1873 et qui tourne autour du débat de aliéné ou pas, voilà, tout ça, quoi.
Ouais.
Donc, dans ce recueil, Foucault va republier le texte de Pierre Rivière. Et à la suite de ce recueil d'articles, en fait, un film va sortir en 1976, réalisé par René Alliot, du même nom, donc moi, ouais. Pierre Rivière, etc. Et donc, va se poser la question de la dureté de la peine face à l'horreur du crime et de la responsabilité du coupable, en gros.
Ouais.
Est-ce que la peine qu'il a pris, donc la condamnation à mort, c'était pas parce qu'une réaction à l'horreur du crime, plutôt que la responsabilité du coupable. Voilà. Donc, c'est encore une vaste question que j'en vois comme ça. Mais voilà, c'est l'histoire de Pierre Rivière. Je me suis inspirée du On de la raconte sur Pierre Rivière. Disponible sur YouTube, ainsi que Wikipédia, j'ai dit. Wikipédia. Et voilà, j'ai trouvé cette histoire super intéressante.
Elle l'est.
J'arrive pas trop à savoir si, en fait, j'arrive pas trop à me faire une idée, est-ce qu'il était responsable ou pas. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses, toi.
Mais moi, je trouve que la question, elle se place pas du côté de l'aliénation. Je me dis qu'il parle de manière tellement claire et articulée que c'est un acte dont il est pleinement responsable.
Ouais.
Mais que si la mère était abusive, alors il y a toute l'histoire avec les frères et sœurs où là, il les a tués sans aucune raison. Enfin, c'est triste, c'est uniquement triste. Mais si la mère était abusive et qu'elle était violente et qu'elle était... Enfin, c'est la même chose que pour Jacqueline Sauvage, en fait. Si on ne peut pas s'échapper d'un foyer qui est toxique, parfois, la seule solution qu'on trouve, je dis pas que c'est la bonne, mais c'est de donner la mort. Enfin, mais c'est terrible, hein, c'est des questions. Et du coup, j'ai l'impression que la question, elle est plus du côté des actions de la mère. Que s'il a fait ça, il y avait peut-être une raison et que... Voilà, enfin, c'est ça que ça m'évoque.
Ouais. Après, alors, je sais pas, parce que j'ai pas tout lu sur le sujet, bien sûr, mais je sais pas si lui a été victime d'actes de violence de la part de sa mère.
Non, mais si elle était violente du côté de son père, ça arrive de voir des enfants qui tuent leur père qui est violent avec leur épouse.
Bien sûr, oui, c'est vrai.
L'inverse existe forcément, sans doute de manière, enfin, proportionnellement moindre. Mais du coup, que l'enfant prenne la responsabilité de vouloir sauver le parent victime, ça arrive. Hein.
Ouais, c'est vrai que c'est une question qui se pose là aussi, ouais. Je l'avais pas... J'avais pas réfléchi comme ça, mais...
Le fait qu'il parle de cette mère toxique et qu'il veut délivrer son père, moi, je me dis que... Enfin, je fais le rapprochement avec des cas qui sont plus contemporains à nous, quoi.
Ouais, et d'ailleurs, dans son récit, en fait, de tous les faits, les détails qui sont donnés, surtout, c'est vraiment sur des années et des années d'abus de sa mère envers son père.
Ouais.
Et
mais moi, ce qui me fait tiquer aussi, et c'est peut-être de la psychologie de comptoir, hein, mais le fait qu'il ait peur des femmes, qu'il y a un problème avec la mère, qu'elle n'était pas appréciée, qu'elle était... Ouais, je sais pas, je... Ouais. Enfin, c'est... Il faudrait avoir plus d'infos, mais...
Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que... Moi, je me suis surtout posé la question, en fait, de... Enfin, est-ce que un aliéné, il est forcément complètement irrationnel, etc. Parce que là, les gens, en fait, ils ont été surpris de voir que c'était un mec qui savait parler, en fait.
Ouais, mais parce que j'ai l'impression qu'ils confondent aliéné et simple d'esprit, en fait.
Ouais.
Tu peux être simple d'esprit et ne pas faire des actes violents et dangereux et irrationnels. Et puis tu peux être complètement intelligent et brillant même et faire des... avoir un comportement de folie. Enfin, là, j'utilise des termes qui sont peut-être pas bons, mais enfin, tu comprends. Ouais, et ouais, du coup, j'ai l'impression qu'ils confondent, et surtout, j'ai l'impression que Pierre Rivière, il était enfermé dans un personnage d'idiot, qui manifestement, c'était pas le cas, puisqu'il lisait, il sait écrire, il s'exprime clairement.
Ouais.
Et que du coup, il y a comme sa réputation qui l'a précédé, et on a voulu... ouais, je sais pas. C'est... ouais.
Ouais.
Oh, trop, très intéressant.
Ouais, j'ai trop envie de, du coup, lire le livre de Michel Foucault.
Grave, ça doit être super intéressant.
Ce qui a été dit là-dessus, en fait.
Ouais.
Parce que c'est vraiment un cas de... c'est un peu un cas d'école, quoi.
Mm-hmm.
Enfin, c'est devenu un peu, genre, le cas référence. Moi, je n'avais jamais entendu parler, mais...
moi non plus.
Mais du coup, oui, c'est Michel Foucault qui en a fait un truc de référence, quoi.
Qui l'a ressorti, ouais.
Ouais, voilà.
Trop intéressant. Mais moi, je trouve que le lien entre les deux histoires, c'est qu'il s'agit de familles brisées, quoi. Enfin, qui sont...
ouais, c'est vrai.
D'une famille presque entière qui est victime d'un meurtre, quoi.
Ouais, c'est une famille qui, à la base, ils sont... donc, il y a 5 enfants. Ils sont 7 et, en fait, au final, ils se retrouvent à plus que 3. D'ailleurs, au procès, le père va venir avec les deux enfants restants. Donc, Prosper et Aimé. Et c'est d'une tristesse, quoi. Enfin, je trouve,
Ouais. C'est terrible. Parce que aussi, ils sont victimes, hein.
Ah ouais, complètement. C'est sûr.
C'est terrible.
C'est sûr.
Eh ben.
Voilà.
Bah, merci. Ben, c'était merci très, très intéressant. Et je connaissais pas du tout. Et j'ai trop envie d'aller lire des trucs.
Il y a le film, du coup.
Ouais. Aussi. Le film, le livre de Foucault. Mm-hmm. Ouais, grave.
Voilà.
Très bien. Bah, bravo.
On passe à des choses plus réjouissantes, comme des recommandations.
Des recommandations culturelles qui sont pas forcément réjouissantes à chaque
pas
fois,
forcément.
Hein, mais...
non.
Est-ce que tu veux commencer ou je commence?
Commence, vas-y.
Ok. Moi, j'en ai qu'une. J'ai commencé la série de Toledano et Nakash qui est diffusée sur Arte, qui s'appelle En Thérapie.
Ok.
Avec Frédéric Pierrot, Mélanie Thierry, Reda Kateb, Pio Marma et tout ça.
Pio!
C'est très 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 bien. J'ai pas fini, hein, j'ai vu que 10 épisodes, il y en a 35. Et chaque épisode se concentre sur une séance de thérapie. Mm-hmm. Donc Frédéric Pierrot, c'est le psy. Et ensuite, c'est des patients qui reviennent. Et ça se passe juste après les attentats du 13 novembre.
Okay.
Donc ça ne parle pas que de ça, mais évidemment, il y a cette menace qui plane au-dessus des séances et c'est très, très, très intéressant. Et j'adore Frédéric Pierrot. Je trouve que c'est un super acteur qui est toujours relégué au second rôle. Et là, il a le rôle principal et voilà. Et je conseille cette série qui est sur Arte et qui est très, très bien.
Ok.
Et qui est adaptée... alors, attends. Je cherche l'info. C'est adapté d'une série israélienne qui s'appelle Betty Pool. Je sais pas comment on dit. Voilà.
Betty Pool,
ok. Ouais, je sais pas comment on prononce. Ça doit être de l'israélien, enfin de l'hébreu, pardon. Mais je sais, voilà.
Tu parles pas hébreu.
Donc voilà, c'est adapté.
Tu parles. T'es pas au cœur de l'info, tu parles pas hébreu.
Non, il y a tellement de choses que je ne sais pas faire, mon Dieu. Voilà,
okay.
C'est Marocco.
Très bien. Moi, d'abord, avant de faire ma reco, je vais dire que j'ai regardé The Wilds que tu avais recommandé la dernière fois. Et c'était trop bien.
Alors, c'est t'as fini
bien. Ouais.
C'est trop bien.
C'est
hein.
super cool. Et j'ai d'autant plus apprécié qu'il y a dans cette série la représentation des Amérindiens. Il y en a deux.
Oui. Ce qui est rare.
C'est ce qui est très rare. Et en plus, c'est des filles qui viennent de la réserve. Donc c'est super rare et donc vraiment j'ai trouvé ça trop bien. Voilà.
Ouais. Et j'ai tellement hâte de voir la suite parce que le cliffhanger à la fin, il promet.
Ouais, grave. très très bien. Donc merci pour cette recommandation.
Cool. Ah, je suis contente que ça t'ait plu.
Ouais, ça m'a bien plu.
Cool.
Et du coup ma recommandation, parce que c'est rien de regardable, parce que ben je vais pas arrêter de regarder Dawson, donc voilà. Mais
mais il y a pas que les films et les séries, hein.
Oui, donc c'est pour ça que je vais recommander un jeu que j'aime trop, que j'ai acheté hier. C'est Les Aventuriers du Rail. Voilà. C'est un jeu de plateau, en fait, où tu... Enfin, un jeu de société. Où tu dois faire des lignes de train. Donc, t'as la carte de l'Europe. C'est con, hein. Mais,
ça a l'air d'être un truc de geek.
Non, pas du tout. En fait, c'est, donc, moi, j'ai la version Europe. Donc, t'as la carte de l'Europe. Et t'as des objectifs. Donc, par exemple, faire une ligne Édimbourg, Athènes. Et donc, t'as des lignes de certaines couleurs, et donc, il faut que t'aies des cartes de certaines couleurs, donc, t'accumules des cartes, et ensuite, tu payes avec tes cartes, comme ça, machin. T'as des jokers, t'as des tunnels à faire. Bon, c'est cool. Quand tu joues à 4, en fait, tu peux bien te foutre sur la gueule, parce que tu peux piquer la prio, à d'autres, tu vois. Donc, ouais. Donc, c'est pas mal.
Ça a l'air chiant.
Non, je te jure, vraiment, c'est super bien. Et,
ok.
Bah, écoute, s'il y a confinement, et que, du coup, tu viens ici, on y jouera, je te jure, c'est vraiment cool. Et
okay.
J'y ai joué hier et je me suis énervée comme une vieille merde parce que je suis une mauvaise perdante.
Same, mais je suis pareil. Mais moi, rien que Trivial Pursuit, je joue ma vie en fait.
Ben ouais.
10 minutes après, c'est oublié, mais sur le moment, je suis pareil que toi.
Ah ouais.
Ouais.
Non, c'était terrible. Et genre là, j'ai pas réussi à faire un objectif. Enfin, c'est pas que j'ai pas réussi à faire un objectif, c'est que j'ai oublié de finir 2 objectifs, donc du coup, j'ai perdu des points. Bon, bref. Et à la fin, j'étais là, genre. Mais pourquoi je vis?
Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs?
Et voilà, j'ai vraiment remis en question toute mon identité en 5 minutes et ensuite on a joué une autre partie. D'accord. Et ça allait beaucoup mieux. Mais voilà. Je conseille.
Ok. Donc comment ça s'appelle? Les Aventuriers du Rail?
Les Aventuriers du Rail. Il y a la version Europe, il y a la version USA, il y a la version Inde.
Au début, j'ai cru que c'était un jeu sur 1, 2, 3 soleil, mais non.
Voilà. Et okay. C'est tout ce que j'ai fait.
Et ben c'est déjà pas mal.
Et oui, bien sûr. Où on se retrouve, Agathe?
Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast sauf Deezer. vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Facebook, Instagram. Même si Twitter et Facebook ont été un peu abandonnés, j'ai l'impression.
Ouais, ouais, un peu. Et Facebook, ouais, mais en fait, Facebook, il n'y a personne dessus.
Ouais, non, non, mais...
Moi, ça me déprime. Personne regarde et tout.
Ouais, ouais, c'est clair. Oh, la dernière fois, j'ai reçu une notification de Facebook pour me dire « Vous n'avez eu aucune visite cette semaine. » J'étais là, mais oh, arrête de troller, c'est odieux. Bref.
C'est mal. Peut-être qu'il faudrait qu'on se mette sur TikTok. Non.
Non, c'est une mauvaise idée.
Non, c'est trop de travail, ça m'épuise rien que d'y penser.
Ah ouais, non, moi je préfère Insta, mais...
Oui, très bien.
Et voilà, et vous pouvez nous retrouver toutes les 2 semaines.
Et toutes les 2 semaines, abonnez-vous, laissez-nous des coms.
Des coms, des étoiles, des cœurs, des pouces en l'air. Tout le monde le pouce en l'air. Ouais.
Et on se dit à dans 2 semaines, peut-être confinés. Peut-être...
Ensemble.
Ensemble. Passer le confinement ensemble.
Ouais, peut-être. Et...
À défaut de Noël.
Et on espère que vous allez bien. Portez vos masques. Respectez les gestes barrières. Mm-hmm. Et courage à tous.
Lavez-vous les mains.
Ouais.
Et le reste aussi, mais les mains plus régulièrement.
Ouais. Et voilà. Ouais. Et courage.
Courage. À plus. Bisous.
Bisous!
Chou!
C'était un chardonnier, un chaudronnier, pardon.
En plus, j'ai même pas relevé, j'étais là, tiens, c'est quoi un chardonnier?
J'ai oublié le U et du coup, j'ai improvisé dans un chaudronnier.
J'avais écrit les fesses qui crient bravo, mais en fait...
Non.
Je recommence ma phrase.
Je le laisse ça ou pas? C'est terrible. D'accord. Non. non.
Bon, je veux juste dire qu'il y a Isande dans la maison.